au Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Sans attendre, je vous propose notre revue de presse hebdomadaire concernant la presse locale et la presse alternative. L'avenir de l'Artois de cette semaine consacre sa une et une pleine page intérieure à Mathieu, un jeune SDF à Lens. Il va avoir 20 ans et il est à la rue suite à une affaire familiale compliquée, nous apprend le journal, qui relate un bel élan de solidarité, une belle mobilisation à Lens pour permettre à Mathieu de sortir du chaos. Mathieu a ainsi trouvé des gens pour le loger un soir et un pot commun circule pour lui verser un petit pécule, etc. Bel élan de solidarité. Même si l'on peut regretter que pas une ligne ne soit écrite pour dénoncer une société qui laisse ses jeunes à la rue, qui fait du logement une denrée inaccessible pour les jeunes sans ressources, saluons une belle mobilisation collective. Nous sommes toujours dans l'avenir de l'Artois et le journal relate une motion contre les compteurs Linky approuvée unanimement. Le conseil municipal de Liévin, du 28 juin, a accouché, nous dit le journal, d'une motion contre les fameux compteurs Linky. L'État a confié à Enedis, ex-ERDF, le changement des compteurs électriques en France. Cette société s'est rapprochée d'Engie, ex-groupe Suez, pour faire ce changement, rappelle le conseiller écolo d'opposition Daniel Ludwikowski, auteur de la motion. Outre le fait de rappeler aux usagers qu'ils doivent avoir le libre choix de la pose ou non d'un compteur Linky chez eux et une demande aux sociétés Enedis et Engie d'obtenir expressément l'accord libre et éclairé des abonnés liévinois avant toute pose d'un compteur, le conseiller Ludwikowski a pris le parti de demander la restitution des anciens compteurs. Car il le rappelle, les compteurs actuels, qui appartenaient à la commune, appartiennent désormais à la Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais, la FDE, à qui la ville de Liévin a concédé son réseau de distribution électrique. La motion a été approuvée à l'unanimité. Liberté Hebdo, maintenant cette semaine, revient sur la gratuité des transports en commun. Micro-Rebelle a déjà consacré plusieurs reportages sur cette question. Liberté Hebdo revient sur la situation dans l'agglomération dunkerquoise. La CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, c'est 200 000 habitants. C'est la plus grande agglomération à offrir la gratuité à tous les usagers. Lignes de bus régulières, transports scolaires ou handibus. Depuis 2 ans, la gratuité était mise en place les samedis et dimanches et cette initiative a entraîné une hausse de la fréquentation et une baisse des incivilités. Dans la continuité, l'extension complète de la gratuité, tous les jours de la semaine, est prévue à compter du 1er septembre. Le président de l'agglo, Patrick Vergrit, affirme « Le coût de la mesure est compensé par ses effets positifs. Cela rend du pouvoir d'achat aux gens, c'est favorable à l'environnement et rend les personnes plus mobiles. » Cela pourrait avantageusement inspirer les communautés d'agglomération de Lens-Lévin et Nain-Carvin, concernant en particulier les lignes Tadao sur le territoire. Nous passons maintenant à la presse alternative que vous pouvez trouver au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, le LAG de Liévin. Nous évoquons aujourd'hui 2 revues. Tout d'abord, le mensuel Alternative Libertaire, dont nous venons de recevoir la dernière livraison, celle du mois de juillet-août 2018. C'est un numéro double pour les vacances. Nous avons noté de nombreux articles sur l'actualité sociale et internationale et un dossier spécial consacré à la sécurité sans le sécuritaire. Nous retenons cependant un article bilan sur la grève des cheminots et cheminotes. Alternative Libertaire relève que ce mouvement social dans le rail a été organisé comme une impressionnante machine à perdre malgré une mobilisation initiale très importante. Quelques arguments. Premièrement, le fameux calendrier de la grève, 2 jours sur 5, n'a pas permis de créer une dynamique d'auto-organisation, de prise en main de la grève par les grévistes. Ensuite, les fédérations syndicales s'étaient entendues sur une plateforme revendicative en 8 points, dont l'abandon du pacte ferroviaire gouvernemental. Au fil des jours, les tracts unitaires ont oublié ce cahier revendicatif. Une dernière interrogation du journal, pourquoi la CGT a-t-elle fait le choix de privilégier l'unité avec UNSA et CFDT au lieu de s'allier avec Sudrail et FO? Au final, le journal constate, gouvernement et patronat n'entendent pas négocier. Seul le rapport de force peut les faire craquer et ils passent par un blocage dans la durée de l'activité ferroviaire. Nous feuilletons maintenant l'hebdomadaire Politis avec un premier article consacré à la pauvrophobie, le mépris envers les pauvres, envers les plus défavorisés. Politis souligne que ce mépris s'exprime jusque dans les discours et les mesures du président Macron ainsi que dans certains médias qui surfent sur la pauvrophobie ambiante. La pauvreté en France touche 13,9% de la population, soit près de 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 60% du revenu médian. Cassos, assistés, paresseux, les propos pauvrophobes se sont banalisés. Et plus d'un Français sur 3 pense qu'une personne en situation de pauvreté ne fait pas assez pour s'en sortir. Et 64% estiment que les chômeurs s'en sortiraient s'ils le voulaient. Et c'est souvent chez les classes moyennes inférieures et populaires que la défiance est la plus grande. La peur menaçante de tomber dans une situation identique instaure une distance sociale et morale, analyse Jean-Christophe Sarrault, chargé de mission à ATD Quart Monde. Un passionnant article à retrouver donc dans Politis cette semaine. Toujours dans Politis et toujours concernant la pauvreté, Jean Gadret signe un billet intitulé « Aide aux riches, un pognon de dingue ». Jean Gadret relève ainsi que, alors que l'ensemble des aides sociales en direction des pauvres se monte à 70 milliards d'euros par an, soit 3% du PIB, l'assistance aux riches peut se découper en 3 postes. Le premier poste, c'est la fraude et l'évasion fiscale. Il peut être évalué à 150 milliards d'euros par an. Le deuxième poste, les niches fiscales ou sociales, réduction ou exonération de cotisations, se monte à 100 milliards d'euros par an. Le troisième et dernier poste concerne la forte baisse de la fiscalité des plus riches et des entreprises, qui peut être estimée à 50 milliards d'euros par an. Jean Gadret arrive donc à un total de 300 milliards d'euros d'aide aux plus riches, sans comptabiliser la fraude aux cotisations sociales. C'est donc bien un pognon de dingue qui bénéficie à une poignée de très riches, 300 milliards par an, à comparer aux 70 milliards d'aides sociales en direction de très nombreuses familles populaires, précaires, pauvres. Eh bien, on va maintenant se consacrer à un premier reportage. Et c'est après le vote de la loi Asile et Immigration, Philippe Vanesson, militant sur Calais et animateur du site Pasteur d'Hospitalité durant plusieurs années. Un reportage réalisé par Luc, un reportage qui fait par ailleurs écho à la marche solidaire pour les migrants entre Vintimille et Londres.
Quelles sont les mesures principales de la loi Asile et Immigration? Qu'est-ce qu'il faut en retenir et qu'est-ce qui soulève l'indignation?
Alors déjà, il y a le principe de cette loi qui est un peu une première dans le sens où il y a effectivement, traditionnellement, on considère qu'il y a une politique migratoire. En droit international, chaque État peut décider des gens qui sont autorisés ou non à pénétrer sur son territoire. Et puis, il y a des conventions internationales, dont la Convention de Genève. Et là, l'État a des obligations d'accueil vis-à-vis des gens qui demandent l'asile. Et jusqu'à présent, il était reconnu qu'on ne mélange pas les deux. Donc, on réformera éventuellement les deux, mais pas dans le même projet de loi. Là, on est effectivement dans la confusion de deux domaines. Et alors il y a des mesures un peu marquantes comme le doublement du temps de rétention alors qu'on sait très bien que les expulsions se font dans les premiers jours et que c'est pas la peine d'enfermer les gens plus longtemps parce qu'on les expulsera pas plus. Donc une évolution vers un enfermement encore plus punitif. Mais il y a aussi tout un tas de petites mesures sur des questions de délai pour faire des recours, délai pour demander l'asile, moyen d'informer les gens par SMS simplement, alors que jusqu'à présent c'était par courrier. L'enjeu du courrier, c'est qu'on reçoit une adresse de domiciliation et que généralement il y a là quelqu'un qui peut traduire et aider à comprendre ce qu'il y a dedans. Alors que le SMS, on le reçoit dans son téléphone, et si jamais on a un problème de téléphone, on ne le reçoit pas du tout. C'est donc tout un tas de petites mesures qui viennent fragiliser le parcours des gens, la possibilité d'être entendu par visioconférence. Quand on est face à un écran et qu'on n'est pas en contact direct avec les personnes, et qu'on doit essayer de convaincre quelqu'un des dangers qu'on a subis, des sévices qu'on a subis dans le pays qu'on a quitté, c'est pas facile à travers un écran plat. Donc voilà, c'est tout un tas de petites mesures qui fragilisent le parcours des gens et qui fait le côté scandaleux de cette loi.
Et donc pour une personne migrante, par exemple à Calais ou dans le Dunkerquois, ou pour un demandeur d'asile, qu'est-ce qui va changer pour lui concrètement avec ces petites mesures?
Mais il y a une chose qui ne change pas et qui est le principal problème, en fait, qui est le problème d'accéder au guichet pour pouvoir demander l'asile. La législation européenne dit qu'une demande d'asile doit être enregistrée en 3 jours, 10 jours en cas de situation extraordinaire. Selon les préfectures, on en est à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, la loi ne va pas changer. C'est une question de moyens financiers et d'organisation de l'accueil. Par contre, les personnes vont être placées en procédure prioritaire si elles n'ont pas demandé l'asile suffisamment rapidement. Ça, c'est donc une difficulté supplémentaire. Et à Calais, ça va particulièrement jouer puisqu'on a des gens qui ont pour but d'aller au Royaume-Uni, qui éventuellement vont se trouver bloqués là, vont se dire finalement, je vais demander l'asile en France, mais qui risquent fort d'être hors délai. Pour être intégrés dans la procédure normale, donc ils vont être dans une procédure accélérée, avec moins de garantie de leurs droits, moins d'accès à l'hébergement, moins d'accès à un conseil juridique, et puis des possibilités de recours qui sont fragilisées en cas de réponse négative de l'OFPRA. Donc ça, très concrètement, ça va impacter le type de public qu'on a à la frontière britannique, oui.
Alors le gouvernement assume clairement une politique de lutte contre l'immigration irrégulière et contre les personnes illégales sur le territoire. Donc il y aura davantage de contrôle des droits de séjour. L'objectif est-il ici de faciliter les expulsions, sachant que ce même gouvernement juge les retours contraints pas suffisants, c'est-à-dire qu'il y en a 25 000 sur les 91 000 potentiellement expulsables.
Moi, je serais tenté de dire que ce n'est pas une politique de lutte contre l'immigration irrégulière, c'est une politique d'irrégularisation de situations migratoires qui pourraient être régulières. C'est-à-dire, la plupart des personnes qui sont sans papiers en France sont des personnes qui sont entrées sur le territoire français de manière légale et qui très souvent ont eu un titre de séjour, et puis la loi a changé, et puis la situation de la personne a changé, et puis les préfectures sont beaucoup plus difficiles d'accès, donc les démarches n'ont pas pu être faites dans les temps, et on fabrique des sans-papiers à partir de gens qui étaient en situation régulière. Et la précarisation des demandeurs d'asile, ça marche pareil, en fait. C'est-à-dire que si on avait une procédure à peu près honnête pour que les gens aient le temps de se poser, et le temps d'avoir accès à un conseil juridique, soit hébergé dans les temps et de manière un peu stable, et puissent préparer simplement leur argumentation pour faire valoir leurs droits, on aurait moins de refus que dans la situation que crée le projet de loi, de tout un tas d'éléments de précarisation sur le parcours des gens, qui fait que des gens vont avoir des refus simplement parce que s'ils se sont fait voler leur téléphone et qu'on leur a notifié une décision par ou une date de rendez-vous par SMS, par exemple. Enfin, tout un tas de petites choses qui vont aboutir à des refus là où on aurait pu avoir des acceptations. Et là encore, les gens vont pas disparaître par miracle. Les gens vont se retrouver sans papier. Donc on fabrique des gens en situation irrégulière. Pareil avec les mineurs qu'on refuse de prendre en charge. Donc l'affichage politique, c'est effectivement pour augmenter les expulsions, n'empêche qu'on fabrique des sans-papiers et qu'on les expulse pas tous. Et quand c'est une politique qui dure depuis 20 ans, on peut se demander si, jusqu'où elle est accidentelle et jusqu'où elle est intentionnelle et jusqu'où le gouvernement ne se satisfait pas finalement de ces gens en situation hyper précaire qui sont sur le territoire national. Mais quelle que soit l'augmentation du nombre d'expulsions, à partir du moment où on continue à fabriquer encore plus de sans-papiers, non, on ne lutte pas contre l'immigration irrégulière. On crée des sans-papiers, on précarise la situation des gens.
Et s'agirait-il également de huiler une machine de tri? Et j'entends par là le fait de distinguer des réfugiés de conflits que très souvent dans les médias on estime plus légitime par rapport à des migrants dits économiques.
Sauf que tous ces petits détails dont je parlais, visioconférence, qui vraiment met les gens dans une situation d'inconfort, l'information qui peut se faire, des notifications, des rendez-vous qui peuvent se faire par SMS, etc. C'est pas une logique de tri honnête. C'est des gens qui n'auront pas la bonne info par accident. C'est des gens qui vont être en procédure prioritaire parce que en procédure accélérée parce que ayant fait leur demande d'asile trop tard par rapport au délai. C'est des choses comme ça qui sont pas une logique de tri honnête, en fait. C'est vraiment une logique de multiplier les petits obstacles pour l'accès au droit. Donc de ce point de vue-là, les demandeurs d'asile sont pas dans une situation vraiment meilleure que n'importe quelle personne qui demande un titre de séjour et qui est confrontée à un outil internet d'inscription pour prendre un rendez-vous, lequel outil est régulièrement saturé et n'est pas accessible. Voilà, c'est ce genre de choses qui font que les situations deviennent de plus en plus difficiles pour tout le monde. Donc non, c'est même pas une logique de tri.
Et est-ce que ce serait du coup une politique, disons, dissuasive?
Ah oui, clairement. Ben, la loi qui a été votée juste avant sur l'enfermement en rétention, la possibilité d'enfermer en rétention pour tout un tas de motifs les personnes en procédure Dublin, c'est clairement une dissuasion pour les gens de venir demander l'asile en France. Car si vous êtes dubliné, vous risquez de passer des semaines en rétention. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais le fait, tous ces délais pour accéder au guichet de la préfecture, ces gens qui passent des semaines ou des mois à la rue, etc., c'est clairement une politique de dissuasion. Ne venez pas demander l'asile en France. Donc de ce côté-là, on continue la même logique, oui.
Le gouvernement nous donne quelques chiffres sur l'augmentation des flux migratoires de 63 000 à 100 000 demandeurs d'asile par an de 2013 à 2017. Est-ce que d'après toi, ces chiffres révèlent la réalité des flux migratoires dans notre pays ?
Non. Les chiffres officiels, c'est aussi que le solde migratoire est d'un peu moins de 70 000 personnes par an. C'est-à-dire la différence entre les gens qui quittent le territoire français et les gens qui y arrivent, en tout cas de manière légale. Ce qui veut dire, enfin, c'est un millième de la population chaque année, en fait. Donc voilà, enfin, c'est pas quelque chose de très important. Il y a une augmentation, il y a une tendance à l'augmentation du nombre de demandes d'asile, beaucoup moins que dans d'autres pays comme l'Allemagne. On peut rappeler que le Liban, le nombre de réfugiés au Liban représente le tiers de la population, comme si un peu plus de 20 millions de personnes déboulaient en France, quoi. Donc non, enfin, 100 000 personnes dans un pays de 67 millions d'habitants, c'est tout à fait raisonnable de penser qu'on peut accueillir les gens correctement. C'est pas, c'est pas un nombre énorme, ça correspond à un objectif de solidarité qui pourrait être tout à fait supportable et supporté en mobilisant des budgets qui sont somme toute modestes. Donc il faut quand même rapporter en fait le nombre de personnes, déjà avoir des éléments de comparaison, qui sont les pays qui sont voisins des pays en guerre. 100 000 personnes à l'échelle d'un pays comme le Kenya par exemple, où il y a plusieurs millions de réfugiés, comme la Turquie, comme le Liban, comme la Jordanie, c'est extrêmement peu, comme le Pakistan. C'est dans un des pays les plus riches de la planète. Donc, où est le problème de l'accueil, quoi ? Il suffit qu'on l'organise, il y a effectivement des budgets à mobiliser. On est dans un continent à la démographie déclinante, donc si on réfléchit sur le long terme, c'est pas un mauvais deal du point de vue concret. Et puis on est dans une situation où le solde migratoire, de toute façon, n'est pas très très important, donc il n'y a pas d'invasion. En fait, le grand remplacement à un rythme de 70 000 personnes par an, ça va prendre 1000 ans.
Au niveau européen, justement, on tend vers une homogénéisation des protocoles ou des procédures plutôt de demande d'asile, ou en tout cas c'est présenté comme tel. Est-ce qu'on peut considérer que cette loi dépend d'une certaine pression de l'Union européenne, ou est-ce que c'est totalement indépendant et la France fait sa petite politique à elle ?
La France joue sur les deux tableaux, sur sa législation interne et sur son rôle dans les institutions européennes pour aboutir à des politiques migratoires plus répressives. Donc les deux avancent ensemble, en fait. Sachant qu'en plus, au niveau européen, il y a un acteur qui est la Commission européenne, qui est dans une logique de renforcement du pouvoir de l'Union européenne, donc de s'approprier un certain nombre d'éléments qui étaient de la compétence des États pour légiférer. Ce qu'on appelle le paquet asile, c'est-à-dire l'ensemble de textes européens sur de la législation européenne sur l'asile, en fait, on avait une majorité de directives, c'est-à-dire de textes qui laissent une possibilité d'interprétation aux États, qui doivent au moment où ils le traduisent dans leur législation. Maintenant, à une exception près, on n'a plus que des règlements, c'est-à-dire des textes qui sortent des institutions européennes et qui sont applicables directement dans les différents États membres sans qu'il y ait de possibilité d'adaptation. Donc on est sur une logique de centralisation aussi. Et comme la Commission européenne est face à un certain nombre d'États qui bloquerait si les politiques migratoires n'étaient pas plus répressives, on est dans une espèce d'escalade répressive, en fait. Elle s'approprie des compétences qui étaient nationales, et en échange, les États les plus résistants, finalement, elle leur dit la répression, c'est moi qui l'amène, et c'est moi qui abaisse les normes en termes de respect des droits humains. Donc on est un peu sur ce deal-là aussi au niveau européen qui compliquerait beaucoup la chose si un État décidait d'avoir une politique beaucoup plus ouvertes que les autres.
Enfin, toi qui as été pendant de nombreuses années sur le terrain avec les migrants ou avec les demandeurs d'asile, qu'est-ce qui pourrait être, ou au moins qu'est-ce qui pourrait être certains des éléments d'un dispositif d'accueil qui soit à la fois plus cohérent, moins double jeu peut-être, et aussi plus humain quand on voit la situation catastrophique dans les jungles ou dans les camps de migrants?
Ben, je pense que ce qui aiderait le mieux les personnes qui arrivent, c'est que la société française, elle résolve ses problèmes. C'est-à-dire, on a très beaux textes sur le droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence, avec une jurisprudence du Conseil d'État qui consacre ça comme une liberté fondamentale. Il y a juste les moyens à mettre en place derrière pour qu'il n'y ait personne à la rue. Et à la limite, on s'en fiche un peu la nationalité de la personne. Et les textes, la base des textes, c'est que on doit apporter cet hébergement d'urgence, quelle que soit la nationalité, la situation administrative de la personne. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème politique d'affectation de moyens pour des politiques sociales pour que personne soit à la rue. Si on part de cette base-là, il n'y a plus de problème d'accueil, en fait. Au niveau au moins de matériel de gens qui sont à la rue. Après, il y a des questions de titre de séjour, il y a des questions de politique migratoire. Il est probable que tout le monde aura intérêt à ce qu'il y ait des politiques migratoires qui soient beaucoup plus ouvertes, y compris parce que personne n'émigre pour galérer dans un pays où il se retrouverait sans papier pendant des mois. Et quand on a la possibilité de faire des allers-retours, quand on voit que ça marche pas, ben on rentre chez soi ou on va ailleurs. Et toute cette circulation, en fait, est rigidifiée par le fait qu'il est devenu extrêmement difficile d'accéder au titre de séjour. Donc, voilà, il y a au moins une orientation qui est résoudre notre problème de personnes qui sont à la rue. Et ça, c'est un problème général de la société française. Et il y a une question d'assouplissement considérable des possibilités d'immigrer et d'émigrer. Et après, la France a un solde migratoire qui est très faible. L'Italie a un solde migratoire négatif, c'est-à-dire il y a plus de gens qui partent d'Italie que de gens qui arrivent. Donc la situation européenne, elle est assez contrastée. On est vraiment très loin de l'invasion. Et en termes d'avenir, on aurait besoin effectivement qu'on ouvre les portes et les fenêtres un peu plus et qu'on apporte plus de souplesse à tout ça.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Eh bien, nous allons nous interrompre pour une petite pause musicale. Comme toujours sur Micro Rebelle, c'est de la musique libre. Nous écoutons Chicano Batman qui nous interprète La Tigressa. Thank you. Eh bien, nous allons maintenant vous proposer un nouveau reportage. Un reportage que nous avons intitulé « Chômeurs rebelles », un reportage réalisé par Luc. « Chômeurs rebelles », c'est un syndicat. Et normalement, un syndicat, c'est pour les travailleurs et les travailleuses. Oui, mais pour unir les forces des chômeurs et des chômeuses, pour résister à la pression de l'administration, pour s'organiser, pour constituer un collectif stable, se montrer, se rebeller, tisser des liens de solidarité entre travailleurs et salariés privés d'emploi, s'entraider dans les recours et les démarches, c'est plus efficace lorsque l'on forme un collectif solide sur le modèle des syndicats. Aussi, ça rappelle que les chômeurs et les chômeuses sont des travailleurs et des travailleuses privés d'emploi pour des raisons qui, le plus souvent, ne leur appartiennent pas. Je laisse donc la parole à Luc pour ce reportage.
Chômeurs rebelles du Brouhésie est un collectif qui vient en aide aux privés d'emploi dans leurs démarches administratives. Il milite également pour un accompagnement digne, à rebours du flicage, un droit à la formation qui s'en donne les moyens et contre la précarisation ou la culpabilisation des chômeurs. Cédric et Claude, rencontrés sur leur stand lors de la fête de l'humain d'abord à Avion, nous parlent de la création du collectif, de leurs actions en cours et des conditions actuelles de recherche d'emploi.
Chômeurs rebelles, c'est... On fait partie d'une confédération, ce qui s'appelle Chômeurs Rebelles, de la CGT. On est le seul syndicat à syndiquer les privés d'emploi. Donc nous, on s'est dénommé au niveau du Brésil comme le Comité d'Action aux Droits du Travail. Alors nous, on intervient pour défendre les droits des privés d'emploi. Donc c'est-à-dire leurs droits, droits quand ils sont radiés, on leur file un petit coup de main. Leurs droits quand ils ont des trop perçus, parce qu'à Pôle emploi aussi, il y a des erreurs, surtout avec les intérimaires. Donc ça nous permet aussi de les aider dans leur démarche et de les accompagner dans leur démarche, parce que les privés d'emploi sont des fois un peu perdus, parce que Pôle emploi leur met quand même la pression, hein. Beaucoup de pression. Sur le Brésil, on a remis en place le comité de privés d'emploi il y a 4 ans, avec difficulté, parce que ça n'a pas été facile de mettre en place, mais aujourd'hui, bon, on a un petit groupe, et puis on est solidaires, et puis on...
C'est quoi les actions du collectif ?
Alors, les actions du collectif, c'est tout simple. C'est une fois par mois, on va devant Pôle emploi et on fait une permanence extérieure. On a une permanence le samedi matin à notre union locale, mais les privés d'emploi ne viennent pas forcément à l'union locale. Donc nous, on va les chercher. C'est-à-dire qu'on va directement devant Pôle emploi, on s'installe, et s'ils ont des questions à nous poser, s'il y a des soucis, après, on peut les recevoir après. Si c'est un code de radiation, le gars, il nous le signale devant Pôle emploi, on l'invite à passer à l'union locale, et après, on gère son dossier, en sachant qu'on peut saisir le médiateur de Pôle emploi au niveau de Villeneuve-d'Ascq. Donc on l'aide dans sa démarche au niveau des courriers. Parce que Pôle emploi ne fait pas forcément la démarche pour eux. On a eu quelques cas, hein, où on a intervenu directement au niveau de la directrice de Pôle emploi, par exemple de Brouet, et on va dire en 48 heures, le problème était réglé, quoi. Un truc tout simple, c'est qu'un privé d'emploi a le droit à des congés. Ben, il a le droit à 4 semaines de congés par an, quoi. Ça, les gens, ils ne le savent pas. Il suffit qu'ils préviennent Pôle emploi en disant « je pars en vacances ». C'est un salarié privé d'emploi. Nous, on n'aime pas. On s'appelle chômeur rebelle, mais on n'aime pas trop le mot chômeur. On n'aime pas, nous. On dit « salarié privé d'emploi ». Demandeur d'emploi.
Il y a tout un problème lié aussi à la pression de l'administration qui peut nuire, on va dire, ne serait-ce que sur le bien-être en fait des personnes.
Tout simplement, là, on remet une fois la pression sur les privés d'emploi par un flicage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents de Pôle emploi, on les a démis de certaines de leurs fonctions pour le mettre au flicage des privés d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mettre en place ce qu'on appelle un cahier, un cahier de suivi des privés d'emploi.
Ouais.
Ça veut dire que un privé d'emploi, ben, aujourd'hui, on le prend pour un gamin, quoi. C'est-à-dire, on va lui mettre un petit carnet de suivi, un peu comme le carnet de correspondance au collège, et puis on va le noter, quoi. On va lui dire, tu cherches pas de boulot, ben, t'es un mauvais privé d'emploi, on va te radier, on va te supprimer tes droits. Bon, il y a des gens qui sont en ARE, c'est-à-dire en allocation de remplacement. Bon, eux, ça va, mais les gens qui sont en RSA. C'est-à-dire qu'on va, derrière, on va leur supprimer leur RSA. 530 balles tous les mois, déjà, les gars, ils n'arrivent pas à vivre. Et en plus, on va leur couper, on va les punir pendant un mois, deux mois, trois mois. Les mecs, ils font comment pour bouffer tous les mois ? C'est inadmissible, quoi. Nous, on n'accepte pas ça. Il y a trois catégories de privés d'emploi. Il y a les autonomes, les semi-autonomes et les gens qui ont vraiment besoin d'un coup de main. Aujourd'hui, les agents de Pôle emploi n'ont plus la possibilité de suivre les privés d'emploi correctement. Et en plus, aujourd'hui, on va les retirer de leur poste pour aller fliquer les chômeurs.
Qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, faire en sorte que le traitement ou la collaboration avec les privés d'emploi permette davantage de dignité?
On va pas prendre la question comme ça. On est 6 millions de chômeurs. Aujourd'hui, il serait temps qu'on se serre les coudes et puis qu'on dise stop. 6 millions de personnes qui viendraient à dire stop. Aujourd'hui, Pôle emploi, la direction de Pôle emploi, on va pas dire les agents de Pôle emploi, parce que les agents de Pôle emploi font leur taf, malgré que eux aussi ont la pression. Mais aujourd'hui, il faut s'unir, faut que les privés d'emploi rejoignent les comités. Des comités, il y en a dans toute la France. On en a un sur le Brouésie, on en a dans le Nord. Nous, on est en train d'essayer, Cédric est en train de, avec l'union départementale, est en train d'essayer de les mettre en place, on va dire, sur la région. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les gens viennent vers nous, nous rejoignent et qu'on s'organise. On s'organise dans les entreprises, les gens sont organisés. Nous, aujourd'hui, on est un syndicat qui syndique les privés d'emploi. C'est tout simple. C'est le même principe que dans une entreprise. Le Pôle emploi, on faut le considérer comme une entreprise. Parce que si on ne s'organise pas, ben, on va continuer à casser du chômeur, quoi. Donc ça veut dire que c'est dénigrer, les montrer du bois, c'est fliquer, les humilier. Le privé d'emploi, c'est quelqu'un qui ne cherche pas de boulot. Hein, on a vu, on a entendu. Hein, Macron qui dit, si tu veux te payer un costard, t'as qu'à aller bosser, quoi. Mais s'il n'y a pas de boulot, il fait quoi, le gars? Un gars qui est au RSA, qui a 530 balles. On lui propose, là on est à Avion ici, on lui propose un boulot à Lille. Il fait comment pour aller bosser à Lille? Comment il fait pour s'il n'y a pas de bagnole, qu'il ne peut pas se payer l'assurance, qu'il ne peut pas. Voilà, quoi, le gars, il ne peut pas. Et aujourd'hui, on va dire, si tu refuses ton boulot, bah, tu seras radié. Radié, ça veut dire qu'on va te couper tes allocations. Donc ça veut dire que derrière, ça engendre plein de trucs. On ne paye plus les loyers, on ne paye plus l'eau, on ne paye plus l'électricité. Nous, on milite aussi contre les coupures d'eau. Hein, nous, on dit, un toit, c'est un droit. On ne peut pas foutre les gens dehors. L'eau, c'est un besoin vital. On ne peut pas couper l'eau. Et puis, on demande aussi on va dire, une allocation de remplacement équivalent à un salaire pour vivre, quoi. Un mec qui gagne un SMIG, il va toucher 900 balles par mois d'allocation. On fait quoi avec 900 balles? Quand on a tiré 400 balles de loyer, il reste quoi? 500 balles, on en tire. Le gars, il vit pas. Aujourd'hui, les privés d'emploi ne vivent pas, ils survivent. Ils survivent.
On veut les convaincre qu'il ne faut plus avoir la peur du lendemain. Faut pas avoir honte, c'est pas une volonté d'être privé d'emploi. On veut se montrer, il faut se rebeller. C'est ça, c'est le mot qu'on veut faire passer. Rebellez-vous, montrez-vous, n'ayez pas honte, c'est tout.
Nous sommes toujours avec Cédric et Claude du collectif Chômeurs Rebelles du Brouésie.
Est-ce que vous estimez quelque sorte victime d'un système de précarisation par rapport au contrat de travail, au travail intérimaire, par rapport à des patrons voyous?
Totalement. On est victime d'un système. On est même une arme de dissuasion pour les patrons. Parce que le patron, s'il y a un salarié qui réclame trop, on monte du doigt les chômeurs en disant « tu vas finir là-bas comme eux ».
Il y a un autre problème, c'est que vous revendiquez le droit au travail dans une société où du travail, il y en a de moins en moins.
Pôle emploi achète des formations. Il faudrait peut-être que Pôle emploi achète les formations en fonction du besoin de l'emploi. Si par chez nous, par exemple, sur le Brésil, on achète des formations en logistique, on peut faire passer des cassettes, tout ça. Mais on a des patrons du bâtiment qui disent « non, on trouve pas de précarité, beaucoup de chômage ». Et après, je pense que c'est à nos élus de faire le nécessaire pour attirer les gens, pour qu'il y ait du boulot dans notre région. Et puis c'est pas à nous de régler ce problème-là, quoi. Aujourd'hui, c'est un chômage de masse. C'est pas que notre région, c'est partout.
Cédric, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta situation?
Moi, ma situation est simple. J'ai 19 ans d'activité derrière moi. Du jour au lendemain, j'ai eu un accident de la vie, j'ai perdu mon emploi. Donc, reconnu travailleur handicapé, inapte au poste. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la RE. Au bout, quand mon ARE était fini, je me suis retrouvé à la SS, 480 balles par mois ou 510 le deuxième mois, ça dépend du nombre de jours, on est payé à la journée. Comme dit Claude, on survit, c'est pas une vie. Moi j'ai des prêts, je peux le dire, hein, j'ai des huissiers au cul, il faut payer, la vie elle te fait pas de cadeau. Quand tu te retrouves du jour au lendemain que tu peux plus payer, ben voilà, c'est tribunal, c'est administration, et l'administration elle fait pour faire crouler les gens et les laisser chez eux. N'ayons plus peur du lendemain, on peut pas nous retirer plus, on n'a plus de travail, on n'a plus de dignité, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut encore nous retirer de plus? Rien. Donc faut pas avoir peur, faut se montrer, faut sortir, faut se montrer, comme c'est écrit là, on n'a pas les moyens d'être pauvre.
vous appelez à une espèce d'union beaucoup plus large qui puisse, on va dire, engager un rapport de force, ce qui n'est pas le cas du fait de la précarisation, de la culpabilisation.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens se replient sur eux-mêmes. C'est-à-dire, on est au chômage, on va rester chez soi, on va se replier sur soi-même, on a des pressions. Moi, je vais donner un exemple concret que j'ai rencontré là, il y a quelques jours. J'ai une copine qui part en formation, qui trouve une formation super. Elle travaille à la MAPAD, elle est en ASS, en allocation de fin de droit. Elle envoie tous ses documents. Elle reçoit tout au niveau de Pôle emploi, validé par Villeneuve-d'Ascq. Arrivée au moment du paiement, elle ne reçoit rien. Elle appelle Pôle emploi, elle me dit « faut redonner un document ». Alors tout a été validé. C'est quoi le but? Elle est obligée d'appeler en disant « moi je suis en formation, je fais comment pour mettre du gasoil dans ma bagnole pour aller me former ?» Alors aujourd'hui Macron il dit « la formation c'est une ouverture ». Mais on ne donne pas les moyens aux privés d'emploi de partir en formation. C'est la clé de la réussite. Il y a un souci quoi. Ben non, moi je peux pas aller à ma formation parce que le midi je peux pas manger, parce que je peux pas me déplacer. Bon après il y a des gens qui ont pas de bagnole, donc ils sont obligés de prendre les transports en commun. Transports en commun, c'est pas gratuit hein, pour les privés d'emploi, ils payent, hein. C'est 5 euros. Après, ben il faut tout communiquer par internet. Ben, tous les privés d'emploi n'ont pas internet. Quand on appelle Pôle emploi, ben, le mec qui appelle Pôle emploi pour un document, son forfait il est bouffé. Hein. Faut qu'on puisse s'organiser pour faire valoir nos droits. C'est pas parce qu'on n'est pas privé d'emploi, on a des enfants derrière. On a le droit de leur offrir, on a le droit à la culture, on n'a rien. Avec 500 balles, comment tu fais pour aller, si tu as envie d'aller voir un film, tu as envie d'aller voir une pièce de théâtre, tu peux pas. Et puis tout est fait pour diviser. C'est comme Cédric le disait tout à l'heure, le mec qui bosse, on va lui foutre la trouille en lui disant « attention, si t'es pas gentil, tu vas te retrouver là-bas ». Et les privés d'emploi, on leur dit « mais si t'es pas gentil, on va te couper tes allocations ». Donc quelque part, on a creusé un fossé. Le but, c'est de retrouver une unité entre les salariés qui ont un emploi et les salariés qui sont privés d'emploi. C'est de l'intérim, c'est du CDD, c'est du travail précaire, c'est voilà quoi. Et un peu même maintenant, avec la loi travail, avec les nouveaux contrats de travail, ben, c'est encore pire quoi. Nous, on est en contact des privés d'emploi, on voit leur détresse. Les mecs, ils ont même plus envie de se battre, quoi. Ils sont au bout du bout, quoi. Moi, quand t'as quelqu'un qui m'appelle en disant « voilà, je suis dans la merde, j'ai me foutre en l'air, quoi. » On est des êtres humains, quoi. Quand on rencontre des gens qui ont envie de mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce que nous, on a vu une entreprise qui a fermé sur le Brésil, 3 suicides, quoi. Et on en a de plus en plus, hein. Des privés d'emploi qui sont au bout du rouleau, et puis voilà, quoi, ils passent de l'autre côté de la barrière, quoi. Faut que ça s'arrête, ça.
Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
C'est tout simple. Nous, on a une permanence à l'Union locale de Bruay-la-Bissière, rue Roger Salengros, c'est la maison des associations. On a une permanence de 10h à 12h le samedi. Et après, devant Pôle emploi... Là, on a un petit souci, parce que Pôle emploi est fermé sur le Bruay jusqu'au 2 juillet. Donc, il n'y a plus de Pôle emploi à Bruay. On peut nous joindre au 07 63 73 45 67 et on a une adresse mail, c'est chômeurrebellebrouésie@gmail.com.
Une page Facebook, Chômeurs Rebelles du Brouésie.
Ce sujet a été réalisé par Luc Chaden pour Micro Rebelle et Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Eh bien, petit retour sur l'actualité dans ce micro-rebelle hebdo. Et je vais vous parler, je vais évoquer les expulsions des familles roms qui sont en cours. Hein, donc cette semaine, plusieurs familles roms, encore en squat à Liévin, ont été expulsées avec présence des forces de police. Et je voudrais notamment évoquer le cas de Cuba Nikolic, au 50 rue Messager à Liévin. Elle a été transportée à l'hôpital de Liévin du fait que Cuba est en permanence sous assistance respiratoire. Et typiquement, son mari est également momentanément pris en charge par son fils. Alors à l'hôpital de Liévin, le médecin estime qu'elle ne relève pas d'un accueil hospitalier car elle a un traitement. Effectivement, elle a un traitement et elle a l'oxygène nécessaire à son traitement. Sauf que il faut brancher le dispositif sur l'électricité. Et donc, suite à l'expulsion, ben, il n'y a plus d'électricité. L'intervention de Médecins du Monde, hein, qui intervient avec le collectif Fraternité Rome sur les squats et les camps de Rome du bassin minier, n'a pas fait changer d'avis le médecin de l'hôpital de Liévin, hein, ce jour de l'expulsion. Et donc le soir de cette expulsion, suite au travail des bénévoles de Médecins du Monde, heureusement, Cuba a pu être gardé à l'hôpital de Liévin ce premier soir. Mais le pneumologue de service maintient son avis que Cuba ne présente pas un état qui nécessite son hospitalisation. La patiente peut en effet vivre à domicile, il faut mettre des guillemets à domicile, étant donné que suite à l'expulsion, il n'y a plus de domicile pour cette famille et pour cette femme. Donc peut vivre à domicile avec son traitement et son assistance respiratoire, c'est ce que dit le pneumologue de service. La situation va donc se reposer dès le lendemain de son hébergement à l'hôpital. C'est une situation d'autant plus compliquée que le mari et le fils doivent se rendre à Paris pour convocation devant la CNDA. La CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile, suite à leur recours après le rejet de leur demande d'asile. Les bénévoles de Médecins du Monde continuent de solliciter divers services et d'autres personnes pour tenter de trouver une solution. Donc à ce jour, deux médecins bénévoles de Médecins du Monde s'occupent de la situation de Cuba. Ils s'opposent à toute sortie d'établissement médical. Donc Cuba est encore heureusement à l'hôpital de Liévin. Et donc ils s'opposent souhaitent également qu'une habitation adaptée soit trouvée à cette famille et à cette femme Cuba. On a là ici une illustration concrète de la pauvrophobie qu'on évoquait tout à l'heure à l'occasion de la revue de presse, un article du journal Politis. Donc le mépris envers les plus défavorisés, diffus dans la société, et donc ici ce mépris qui touche jusqu'aux médecins de l'hôpital de Liévin. Eh bien, on va maintenant vous proposer une nouvelle pause musicale, hein, toujours de la musique libre sur Micro Rebelle. Il s'agit de Akebe Shakedown qui vous interprète Penny the Snitch. Eh bien, cette émission, ce micro-rebelle hebdo se termine. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes donc au début de l'été, hein. Ça n'aura échappé à personne. Hein. Les températures nous l'indiquent tout à fait clairement. Et durant ces deux mois d'été, juillet et août, micro-rebelle va interrompre ses émissions. Alors vous pourrez toujours nous retrouver sur notre site, hein, réécouter les émissions, les nombreuses émissions hein, que nous vous avons proposées tout au long de cette année 2017-2018, tout au long de cette année scolaire. On va se retrouver fin août, nous reprendrons nos émissions, hein, celles auxquelles vous êtes habitués, hein, aussi bien Chapeau Débat, Micro Rebelle Hebdo, l'actualité vue par les jeunes, les chroniques rebelles, les reportages, le gang des hystéries, etc. etc. Autant d'émissions que vous pouvez donc, hein, je vous l'ai dit, retrouver d'ores et déjà en podcast sur micro-rebelle.fr. Et puis nos partenaires, hein, Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3, vont rediffuser également tout cet été certaines de nos émissions que vous avez pu entendre sur nos antennes, sur le web. Et puis, durant l'été, hein, réfléchissez, n'hésitez pas à proposer des reportages, des chroniques, des débats radiophoniques en nous écrivant par courrier électronique à l'adresse contact@micro-rebelle.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, hein, revenir tout à fait à bloc à la fin du mois d'août avec Micro Rebelle. Nous terminons avec de la musique libre. Très bonne semaine à toutes et à tous. Très bel été à toutes et à tous. Rendez-vous à la rentrée.
Rebelle Hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur les ondes de nos amis de PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro Rebelle Hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.